Jacques chapitre 5 et au verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Avez-vous entendu parler de la patience de Job ? Oui. Quel exemple ? Donc de patience et également quel poème, quel modèle aussi de foi, quel modèle d'intégrité et quel modèle aussi d'issue favorable de bénédiction. La souffrance, c'est le lot de tous les hommes et tôt ou tard, nous souffrons. Nous souffrons d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, que ce soit moral, au niveau de notre cœur. Il nous arrive tous de souffrir, et parfois plus durement, plus difficilement que d'autres, et plus longuement surtout. Le plus dur, c'est quand ça dure, quand ça ne s'arrête pas. Le livre de Job, c'est un livre extraordinaire. En principe, c'est pas le livre qu'on ouvre le plus. On préfère ouvrir les psaumes, les proverbes ou les évangiles. Mais le livre de Job, comme c'est un livre qui parle de la souffrance, on a tendance à l'ouvrir que quand on est dans des temps de souffrance. Quand on souffre, on va se tourner vers le livre de Job. Mais il est intéressant ce livre, et certains y ont penché leur regard, notamment Victor Hugo, et il dira qu'il n'y a rien de semblable à l'œuvre du livre de Job, en termes de littérature, en termes de poésie. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre très très bien écrit et c'est une référence en termes de littérature. Et nous allons voir pourquoi ce livre est intéressant et pourquoi la vie de Job est intéressante pour nous qui sommes confrontés à beaucoup de souffrances et parfois à de lourdes et graves souffrances. C'est vrai que on s'intéresse plus facilement à ceux qui réussissent, à ceux qui sont en bonne santé, parce que lorsque on va voir quelqu'un de souffrant, ou lorsque l'on côtoie la souffrance, la mort, la douleur, ça nous renvoie à nos propres peurs, et on a du mal parfois à aller vers ces personnes, parce que quelque part, eh bien, il est difficile pour nous de comprendre, parce qu'on ne voudrait pas comprendre, on ne voudrait pas être dans cette même situation. Quelle est donc l'histoire de Job ? Ça se passe au temps des patriarches, et des patriarches du nom d'Abraham, par exemple. Dans cette période, on compte la richesse d'un homme avec son cheptel. Job, c'est un grand monsieur. Job, c'est quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche, quelqu'un de connu, quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est reconnu pour sa sagesse, quelqu'un qui fait du bien autour de lui, quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui est riche. Nous le voyons dans le premier chapitre, au verset 3. Il est dit qu'il avait 7 fils et 3 filles, il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Un peu comme nous. On a 3-4 voitures de luxe, on a des belles propriétés, on a le compte en banque rempli. Hein, un peu comme nous. On est très connu, et de tous les fils de l'Orient, c'était le plus considérable. Bien sûr, lorsque on voit quelqu'un avec de la richesse, on voit quelqu'un avec de la gloire, on se dit il est béni. Et certainement, il était béni, parce que tout lui réussissait. Et en plus d'être riche et d'être grand, il était sympathique. Il était plus que sympathique. Il faisait du bien tout autour de lui. Il pensait à la veuve, il pensait aux pauvres, etc. On peut le lire dans le chapitre 29. Il était aimé et reconnu. On va lire quelques traits de son caractère. Souvent, les riches, ils sont un peu égoïstes, hein, parce que s'ils nous en donnaient un petit peu, c'est ce qu'on se dit. Hein. Mais non, lui, non, pas du tout. Lui, il faisait grâce et il distribuait tout autour de lui. Au verset 21 du chapitre 29, il est dit « On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. » Verset 23, « Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. » Verset 25, « J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. » C'était vraiment quelqu'un de bien, Job. Et même aussi au chapitre 12 et au verset 16, on peut lire cela de lui. Excusez-moi, c'était au chapitre 29. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplissais de joie le cœur de la veuve. » C'était quelqu'un de bien, Job. C'était quelqu'un qui méritait d'être connu et reconnu. C'était quelqu'un aussi qui était pieux. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. On trouve ce détail au chapitre 1er, mais aussi au chapitre 31, lorsqu'il est dit « Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une femme. Au verset 5, « Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. » C'était quelqu'un qui ne mentait pas. C'était quelqu'un qui n'avait pas les regards attirés. À vos souhaits, Jeannette. Au verset 7, il est dit « Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, il obéissait à Dieu. » Au verset 9, « Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, etc., il ne convoitait pas la femme de son prochain. » Au verset 13, « Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur, il était bon même avec ses serviteurs. » Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, au verset 16. Verset 19, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements. Et au verset 24, si j'ai mis dans l'or ma confiance. Si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui à la grandeur de mes biens. Rien de tout cela, il n'était même pas orgueilleux de ses richesses et de ses biens. Verset 29, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher de demander sa mort avec imprétation, si les gens de ma tente me disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» etc. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, etc. etc. Il était plein de qualités, cet homme. Il ne se réjouissait même pas du malheur de ses ennemis. Il avait vraiment de grandes qualités. Et ce qu'il faisait de bien aussi, chapitre 1er, on le trouve, c'est que il avait donc 7 fils et 3 filles. Et comme il y avait de l'abondance dans la maison de Job, eh bien ses fils et ses filles faisaient souvent des festins, ils se réunissaient. Et lorsqu'ils se réunissaient, le lendemain, Job apportait des offrandes au Seigneur et il priait pour ses enfants s'ils avaient péché, si pendant ces moments d'euphorie, de liesse, ils avaient commis quoi que ce soit, il apportait et il intercédait pour ses enfants. Un homme parfait. Oui. C'est dur d'être comme Job. Non seulement d'être aussi riche que lui, mais d'être aussi bien moralement et d'être aussi bien même au niveau de son cœur, de la pureté de son cœur, de ses pensées. Job, c'était quelqu'un de remarquable, vraiment, à tous les niveaux. Il était même écologique. Écologiste ou écolo, je sais pas comment on dit. Écolo. Il dira au verset 38 du chapitre 31, « Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croise des épines au lieu du froment et de l'ivraie au lieu de l'orge. » Amen. Il jetait même ses poubelles dans le tri sélectif. C'était un homme parfait. Un homme parfait. Mais voilà qu'un jour, je dirais le jour où tout s'est arrêté, voilà qu'un jour, il y a eu quelque chose de dramatique, et non pas une chose, mais une succession de choses au même moment. Et cette succession de problèmes, cette succession de malheurs a posé d'énormes interrogations de la part de Job et d'énormes interrogations de la part de son entourage. Quand il vous arrive un malheur, bon, ça arrive. Mais quand il vous arrive une série de malheurs, vous vous posez des questions. Bon, si c'est étalé au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, bon. Mais si c'est le même jour, pas tous les jours, le même jour, une série de catastrophes sans précédent, on se dit, c'est pas possible, il y a une malédiction, il y a quelque chose. C'est incroyable. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Il avait toutes ses bêtes, il avait tout ce cheptel, et un jour, un homme vient et lui rapporte cette nouvelle. C'est dans le chapitre 1er, au verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânes espécés à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Quelqu'un est venu lui rapporter que des ennemis qui se trouvaient là sont venus et ont tué et ont enlevé les bœufs et les ânes. Les bœufs et les ânes. Il y en avait juste 500 paires de bœufs et 500 ânes. Ça fait beaucoup, hein ? Beaucoup de pertes. Un petit peu comme on pourrait dire, si vous êtes chez quelqu'un, chez un ami, vous recevez un texto, j'ai une mauvaise nouvelle, ta maison et ta voiture ont brûlé. Ça arrive, on le voit dans les actualités, ça peut nous arriver. Hein ? Et en plus, l'assurance aussi qui n'était pas loin, elle a brûlé. Donc ne compte même pas qu'on va te rembourser. Bon, on continue à boire son café. Et un autre texto arrive. Un grand orage était là et la foudre est tombée sur tes 7000 brebis. Et tes serviteurs aussi, fini. Oh là là. La maison que j'avais à la Seyne-sur-Mer ou à Ajaccio. Fini. Un autre texto, plus rien. Un troisième messager arrive, le même jour. Et cette fois, c'était concernant les 3000 chameaux. 3000 chameaux. 3000 chameaux ont été tués par les Chaldéens. Tu te rends compte, aujourd'hui, c'est vraiment pas ton jour. 3000 chameaux ont disparu. Tu sais, l'argent que tu avais placé sur la bourse, ben figure-toi que tu as tout perdu. C'est fini. Tu te retrouves sur la paille. Tout le même jour. Et encore plus, un autre messager arrive en disant, c'est incroyable, mais tes fils et tes filles qui étaient là, ils mangeaient, ils buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Un tourbillon. C'est incroyable. Tout ça est arrivé le même jour au même homme, à la même personne. Il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se dire, mais à quoi bon ? À quoi bon croire en Dieu ? À quoi bon servir le Seigneur ? À quoi bon être honnête ? À quoi bon avoir des bons sentiments ? Si je récolte que tout cela. Mais la première bonne réaction de Job, ça a été, vous le savez, les lecteurs de la Bible et les croyants. Au verset 21, il dira, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Incroyable, la réaction de Job. Il y a un combat, il y a un enjeu spirituel qui se trame autour de Job et il ne le sait même pas. Mais Dieu qui est au-dessus, il maîtrise tout. C'est lui qui permet cela. Mais il sait sans aucun doute que Job pourra sortir vainqueur de cette épreuve. Il pourra sortir vainqueur de cette épreuve et de celle qui l'attend. Et Satan va lui réclamer, Satan va lui dire, mais si je touche à sa vie, tu verras, il va te renier. Vous savez que Satan cherche à nous détruire. Il cherche bien sûr à détruire toute notre vie, tous les aspects de notre vie. Et il cherche à détruire notre cœur, notre âme. Et c'est ce qu'il va essayer de faire avec Job. Il va l'atteindre au niveau de sa santé. C'est vrai que si on perd tout, mais tant qu'on a la santé, il y a toujours un espoir. D'ailleurs, quand on se souhaite la bonne année, une bonne année, surtout une bonne santé. Mais quand on n'est pas en bonne santé, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus difficile d'espérer. Et lui qui ne méritait rien va subir d'atroces souffrances. Job va être touché d'un ulcère malin, de la tête, de la plante du pied jusqu'à la tête. Je vous lis un petit peu les symptômes. Il avait des abcès de la tête aux pieds, beaucoup d'irritation et de démangeaisons, une perte de l'appétit, de fréquents malaises, des insomnies. Sa chair était infectée par la poussière et les vers. Il avait des ulcères purulents sur tout le corps. Il faisait des hallucinations. Il avait la peau qui se ratatinait. Il était atteint de maigreur. Il avait une haleine fortement fétide. Il avait les dents qui partaient. Il avait la peau qui se noircissait. Il avait de fortes fièvres. Ce n'est pas agréable à entendre. Imaginez à voir. La Bible nous dit que c'était tellement terrible que ses amis qui vont venir pour l'encourager, le soutenir, le consoler, ils ne vont pas parler au bout de 7 jours et 7 nuits. Je le lis pour vous. Fin du chapitre 2, verset 13. « Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole. » Car il voyait combien sa douleur était grande. La douleur, l'horreur de la souffrance était tellement dure que ses amis n'avaient pas de mots. On ne sait pas quoi dire. C'est tellement horrible, c'est tellement terrible ce qui t'arrive. Et on a envie de dire, quand on regarde la suite, ils auraient mieux fait de se taire. Parce qu'au bout de 7 jours, quand ils vont commencer à parler, au lieu de le consoler, au lieu de l'épauler, ils vont rajouter encore un malheur de plus sur Job. Et même si on peut avoir des douleurs atroces au niveau du corps, les mots parfois font très très mal. Elles font même plus mal encore que les coups. Et alors qu'on attendrait des amis, des mots qui adoucissent nos douleurs, qui nous aident, qui nous réconfortent, qui nous consolent. Job a eu des amis qui l'ont enfoncé et qui l'ont culpabilisé. Mais si tu en es là, c'est parce que tu as péché, mais c'est parce que tu dois te repentir, tu as fait quelque chose de mauvais. Ils vont le condamner. Bien sûr, Job va se repentir, mais ce n'est pas parce qu'il avait fait du mal qu'il en était dans, il était dans ce cas-là. C'était quelque chose qui le dépassait, c'était quelque chose qui était au-dessus. Il va se repentir d'avoir dit pourquoi. Mais il savait qu'il était pécheur. C'est dit dans quelques versets, dans quelques chapitres plus loin. Il savait qu'il ne méritait pas ce qu'il avait. Mais il y a aussi, bien sûr, heureusement que tous les méchants et tous ceux qui enlèvent Dieu de leur vie, tous ceux qui font des atrocités, ceux qui font du mal autour d'eux, ne sont pas atteints comme Job. C'est pas aussi simple que ça. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux méchants comme aux justes. Le juste, il réalise la grâce. Et il reste dans la grâce et dans la faveur. Mais tôt ou tard, il y aura le jugement. Et il vaut mieux accepter Dieu aujourd'hui. Job dira au chapitre 6 et au verset 14 « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Amen. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. C'est la beauté de l'Église. On entend des cas un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, et on aurait tendance à dire « Mais tu l'as bien cherché. Si tu en es là, c'est parce que tu as fait n'importe quoi. Je te l'avais dit. On t'avait prévenu. » Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Amen. Là, il y a derrière les sentiments de Jésus, là, derrière les sentiments de grâce et de miséricorde. Si je n'ai pas compris la première fois, alors je peux m'en vouloir. Mais ne rajoute pas à ma douleur, ne rajoute pas à ma souffrance le fait que je me suis trompé, que je me suis égaré. Mais on a envie d'entendre plutôt des messages d'encouragement, des messages de miséricorde. Avec Dieu, c'est jamais trop tard. On peut toujours revenir dans ses bras. Mais il suffit de le saisir maintenant et de ne plus recommencer. Si on retombe dans nos travers, alors il se passera ce qui se passera. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour toi encore de venir. Au milieu de ces ténèbres, au milieu de toutes ces douleurs, et ça dure plusieurs chapitres, ça dure longtemps, les discours des amis, ils se relayent à qui fera le plus beau discours. Ils disent des choses merveilleuses concernant le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant. C'est pour ça que le livre de Job est beau. Et Job aussi dira des vérités scientifiques même, mais tout en prose, tout en poésie. À l'époque, il n'y a pas tous ces accessoires, ces télescopes. On ne sait même pas que la Terre est ronde, et pourtant il y a un verset qui en parle. La Terre qui est suspendue aussi dans l'univers. Tout ça nous montre que c'était des révélations divines. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est une parenthèse, mais tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ce n'est pas un livre scientifique, mais tout ce qui est dit au niveau scientifique, c'est vrai. Et aujourd'hui, les progrès ont montré que c'était vrai. Mais ça a été écrit des années, des années, des centaines d'années avant. Il dira au milieu de ces ténèbres et au milieu de ces souffrances, au milieu de ses accusations, au chapitre 19, et c'est la clé de ce livre de Job. Vous connaissez tous cette phrase. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Au milieu de ces accusations, de ces ténèbres, il aurait pu prendre le premier revolver, le premier couteau. Et c'est sans doute la tentation qui nous est donnée quand on ne connaît pas notre défenseur, notre sauveur merveilleux qui est Jésus-Christ. On peut être dans des situations de vie tellement dures et douloureuses. On a envie que d'une chose, c'est d'en finir avec la vie. Mais au milieu des ténèbres, il y a comme un rayon de soleil qui nous dit « Je sais, dans mon cœur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Défenseur est vivant. Je sais que Jésus me défendra. » Alléluia. Prophétiquement, il annonçait la venue de Jésus-Christ. Jésus qui s'est identifié à notre souffrance, qui s'est fait homme et qui a souffert l'ignominie, qui a souffert la croix pour nous donner le salut et pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la faveur de Dieu, pour nous donner sa grâce. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Hébreux chapitre 12, on le lit ensemble. Hébreux chapitre 12. Verset 2, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Jésus a pris nos souffrances pour que l'issue de notre vie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, ce soit une issue favorable et pleine de bénédictions. On a chanté tout à l'heure quel repos. On a chanté tout à l'heure que même si ici c'était dur, même si ici le travail est dur, même si ici il y a encore des douleurs, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, mon Défenseur céleste est vivant, et que lorsque je vais quitter cette terre, je revêtirai un manteau de justice, j'aurai un corps glorifié, j'aurai plus de douleurs, j'aurai plus de soucis, je serai dans la paix éternelle. Les souffrances de Job ne sont rien comparées aux souffrances qu'a pu subir Jésus pour le salut de notre âme, pour le salut de ton âme. Et ce qui est merveilleux avec l'histoire de Job, dans le dernier chapitre, il va bien sûr continuer de dialoguer avec Dieu, continuer de parler, et Dieu va lui répondre. Il y a à peu près 29 fois, le mot « pourquoi » dans le livre de Job. Pourquoi ? Pourquoi tant de souffrances ? Pourquoi tant de douleurs ? On pourrait le dire en deux mots, hein, pour l'histoire de Job. Pourquoi ? Dans quel but ? Le but, c'est que tu connaisses ton Rédempteur. C'est que tu connaisses vraiment le Seigneur, son cœur qui est plein de miséricorde et de compassion et d'amour. Avez-vous entendu parler de la patience de Job ? Avez-vous vu comme Dieu est miséricordieux et compatissant et combien il l'a rempli de bénédictions ? Avez-vous entendu parler de ses souffrances qui se sont transformées en joie ? Job va dialoguer et va discuter avec l'Éternel. Et l'Éternel va lui répondre. Il va lui dire, mais regarde les animaux, regarde l'hippopotame, regarde le crocodile. Regarde la terre, comment elle est formée, regarde son cycle, regarde la nature. C'est moi qui ai créé toutes ces choses. C'est ma sagesse On ne peut pas contester avec Dieu. On ne peut pas contester avec sa volonté. Elle est au-dessus de notre intelligence. Et Job va se repentir de cela. Il va reconnaître sa faiblesse. Il va s'abandonner complètement à Dieu, à sa volonté. Et à ce moment-là, le Seigneur va le bénir. Il dira : je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais en gros que tu es au-dessus de tout. Et je croyais être plus fort, je croyais maîtriser toute chose, mais finalement je ne maîtrise rien. C'est toi qui me donnes la grâce, c'est toi qui me donnes le souffle, c'est toi qui permets toutes ces choses finalement. Un jour tu dis un mot et tout s'arrête, tu dis un mot et tout arrive. Il a reconnu que Dieu était tout-puissant. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. J'ai vraiment touché du doigt qui était Dieu. C'est pourquoi je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ensuite, le Seigneur, l'Éternel, va lui redonner au double de tout ce qu'il avait. C'est merveilleux, ça. Avec Dieu, on peut racheter le temps. Et si dans notre passé, il y a eu tant de souffrances et de douleurs à cause du péché, à cause de toutes ces erreurs, le Seigneur est capable de guérir, le Seigneur est capable de consoler, le Seigneur est capable de faire oublier même, de consoler vraiment et de restaurer quelque chose dans notre cœur, dans notre vie. Il va lui redonner le double du cheptel, il va lui redonner 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il aura encore 7 fils et 3 filles. Le nom, il va donner le nom à sa première fille de Jemina, la seconde celui de Ketsia et la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et ses filles et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. L'issue avec Dieu est toujours la meilleure. Et à travers l'histoire de Job, on pourrait en conclure que nos souffrances d'aujourd'hui pourraient se transformer en bénédictions en suivant le Seigneur Jésus, en suivant l'Éternel qui est au-dessus de tout, qui est tout-puissant. Trop longtemps je l'ai négligé, trop longtemps je croyais le connaître, mais je ne le connaissais pas. Mais je veux le suivre aujourd'hui, parce que je sais que c'est lui qui m'apportera le vrai bonheur. C'est lui qui est l'auteur et le créateur de notre bonheur. C'est lui qui me donnera des jours heureux. Et si ça dure tout le long de cette terre, je sais que ça durera pour l'éternité avec lui dans le ciel. Amen. On va prier un instant ensemble. Seigneur, te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, nous voulons, Seigneur, considérer ce qui s'est passé pour Job. Seigneur, à travers son exemple, son modèle, Seigneur, nous puissions tous, chacun pour sa part, Seigneur, si la douleur, si la souffrance nous ont éloignés un temps de toi, Seigneur, que, Seigneur, tu nous ramènes à toi, Seigneur, et que tu nous rappelles à notre esprit ta grandeur, que tu nous rappelles, Seigneur, que tu es tout puissant, que tu es au-dessus de tout et que tu es capable de régler tous nos problèmes. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es là, que tu es vivant encore aujourd'hui pour guérir, pour relever et pour transformer des vies. Seigneur, s'il y a au milieu de nous des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur, Seigneur, que tu apaises ces douleurs par ton baume d'amour, parce que tu nous as rappelé par ton Fils que tu nous aimais tous de la même manière et que cet amour peut se transformer en bénédiction dans nos vies si nous nous plongeons dans cet amour. Merci, Seigneur, de bénir celui ou celle qui est venu avec un cœur souffrant. Ils repartent avec un baume dans le cœur, celui de ton amour, celui de la croix, parce que tu as pris sur la croix nos souffrances et nos douleurs pour que nous ne vivions plus avec, mais que, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, nous passons haut la main ces temps d'épreuves et ces temps de tempêtes. Que ton nom soit béni, Seigneur, donne la force à celui qui est fatigué, relève celui qui est chargé, Seigneur, et que nous puissions dire comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant j'ai constaté, j'ai vu de moi-même, de mes yeux, et que qui tu es et ce que tu peux faire dans ma vie. » Merci, Seigneur, de bénir. Merci, Jésus, pour ces moments. Amen.